Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse tous les shows de la WWE et aujourd'hui, direction l'Arabie Saoudite, direction Riyad pour le WrestleMania d'automne. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, la démesure, les feux d'artifice, les drones sont là pour ce Crown Jewel du 5 novembre 2022 en direct du... Alors là, il va falloir m'aider pour le prononcer. Emmersul Park Stadium. Peut-être que mon compagnon, mon collègue Raphaël va pouvoir me guider car il est avec nous pour analyser ce PLE. Salut Rapha.
Salut Guérem. Malheureusement, je ne suis pas convaincu de la prononciation du stade de Riyad. Déjà, à chaque fois que je découvre comment ça s'écrit Riyad, j'ai l'impression qu'il rajoute des Y et des H à chaque show. Mais non, c'est juste moi qui dois oublier. Oui, l'Arabie Saoudite, voilà, cette belle terre de soleil et de sable et de dromadaires et puis de pétrole, c'est un pays qui a plein de valeurs qui sont reliées à celles du catch, donc on est chaud, on est bon, on y est.
Ouais, c'est déjà le quatrième peut-être, hein, Crown Jewel. Il me semble, oui, ça doit être la quatrième édition, il y a une année où ça avait sauté évidemment. Quatrième édition. Cette fois-ci, je vous rassure d'ores et déjà, tous les catcheurs et toutes les catcheuses et tout le personnel WWE est rentré à bon port. Les avions ont décollé après l'événement et ils ont tous atterri en temps et en heure, sains et saufs. Et d'ailleurs, Brock Lesnar, lui, il est rentré rapidement, hein, mon bon Raphaël, parce que c'est Brock Lesnar qui a ouvert le show. Ouais. Il avait probablement envie de rentrer très rapidement chez lui, hein, en jet privé.
Oui, bah en plus avec le décalage horaire, il doit arriver assez vite après dans le Minnesota, mais oui. Hein. Je ne sais pas si ceux qui commencent le show sont obligés de se farcir tout le reste du show jusqu'au soir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait.
Nous, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on se l'est... Enfin, c'est ce que tu l'as regardé. Je crois pas que tu l'as regardé en direct, toi, Crown Jewel. Est-ce que tu l'as regardé en direct? Je te pose la question, vu que tu es là.
Je ne l'ai pas regardé en direct, mais l'avantage, c'est qu'on était quand même pas très loin, donc je l'ai regardé avec un décalage de 2 heures.
Ah oui, c'est vrai, tu en léger différé, comme la dernière fois, tu nous avais déjà fait le coup, je crois que c'était pour Cardiff, tu l'avais regardé en léger différé. Ouais, ça a été le network, ça fonctionnait cette fois-ci?
Ça fonctionnait très bien, alors il y a juste un moment au milieu de show, je pense que c'est le moment où le show se finit réellement, je ne sais pas, il faudrait que les agents techniques nous en parlent, où les commentaires français disparaissent, et puis on est obligé de passer sur les commentaires américains, mais ma foi, bon, moi ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir nos franchises à la voix. Donc Christophe Ajus, si tu nous écoutes, je sais pas, il y a un moment où ils t'ont coupé.
On ne coupe pas Ajus comme ça. Non mais dis, on va falloir que des gens s'expliquent. Il va falloir que les gens nous expliquent pourquoi on a eu ça. Je te rejoins, effectivement, moi je l'ai regardé juste dans la foulée et il a fallu attendre quelques minutes avant que le pay-per-view ne soit entièrement disponible. Brock Lesnar, la bête du Minnesota, comme tu l'as dit, affronte ce soir en opener le Almighty Bobby Lashley. C'est lui d'ailleurs qui ouvre, je crois, qui entre en premier. Alors là, c'est festival de feu d'artifice, festival de drones, carrément. Mon bon Raphaël, puisque pour plusieurs entrées, on a eu droit à des drones qui nous formaient des petits symboles dans le ciel. C'est tout simplement le nouveau dispositif technique de mise en scène de ce spectacle haut en couleur. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé, on va dire, de l'emballage, du décorum de ce Crown Jewel?
Eh bien, écoute, je n'y ai pas été si sensible, puisqu'en fait, je n'ai compris que très tard, c'est-à-dire aujourd'hui même, que c'était des drones. Moi, je pensais juste que c'est des incrustations écran, comme quand il y a l'immense Roman Reigns là, qui arrive sur son entrée.
Ouais.
Je pensais pas que c'était vraiment dans l'arène à Riyad. Après, ouais, il y a eu un paquet de feux d'artifice à divers moments tout autour du stade. Bah, c'est Crown Jewel, quoi. On met le paquet, on nous bulle les méga stars, et là, c'est vrai que... Bah, faire rentrer Bobby Lashley en premier, en plus son entrée elle est quand même vachement stylée, donc ça mettait dans l'ambiance, ça lançait bien.
Ouais, bah effectivement, alors je comprends que tout le monde n'ait pas forcément capté que c'était des drones, mais oui, il y avait des drones au-dessus du stade. Je ne sais pas d'ailleurs si aux États-Unis s'ils seraient autorisés à faire ce genre de choses, parce que pour des questions de sécurité, faire flotter 1000 petits appareils électroniques au-dessus de 60 000 personnes, je ne sais pas si... on a toutes les autorisations, mais on le saura peut-être qu'un jour, peut-être qu'à WrestleMania, nous aurons aussi des drones qui formeront les différents logos de nos superstars favoris. On a aussi, j'en profite pour terminer cette parenthèse, sur l'aspect technique. Il y a eu pas mal aussi, je trouve, d'effets de caméra qui ont été sympas. Il y avait des effets plongeants, notamment. Bah, je pense que c'était aussi des drones avec des caméras embarquées qui ont fait des vues plongées pendant voilà, certains événements clés du pay-per-view. Donc, c'est sûr que ce Crown Jewel porte bien ce petit surnom qu'on lui a donné de WrestleMania d'automne, parce que tout est dans la démesure, à se demander même s'il n'y a pas parfois plus de moyens qui sont mis dans ce Crown Jewel que dans les WrestleMania, on verra. En tout cas, la barre était haute pour ouais, cet événement.
Il y a eu quand même quelques effets que j'ai pas trop compris, des flashs lumineux, des publics qui se retrouvent dans le noir à un moment, des bruits, des grands bruits bizarres, mais ça...
Ouais, bah voilà, bah il y a eu des on va dire des...
C'est Retribution, disons, peut-être.
Peut-être c'est Retribution, peut-être des opposants politiques qui ont été neutralisés. Tu sais, dans la foule, on ne sait pas trop, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de... un petit peu étranges, des bruits étranges, des lumières qui s'éteignent tout d'un coup, on ne savait pas trop pourquoi, ça ne menait à rien, donc bon, bah, peut-être que c'est tellement dans la démesure que parfois on avait du mal à... qu'on perdait un petit peu le fil. Bobby Lashley contre la bête, Brock Lesnar, s'affrontent en opener et... on n'attend pas le début, on n'attend pas que la cloche sonne, puisque Bobby Lashley fonce directement et attaque Brock Lesnar dans le dos. Brock Lesnar qui faisait un peu le kéké, là, ça n'a pas plu à Bobby Lashley qui est là pour la castagne, et il lui met un énorme spear avant de le ramener sur le ring. La bête est sonnée, et le match est lancé. Bon Raphaël, alors c'est assez incroyable, hein, la bête qui va souffrir, hein, Brock Lesnar qui va être tout simplement malmené par Bobby Lashley pendant de longues minutes. Hein. Les spears sont balancés à l'intérieur, à l'extérieur du ring, à travers donc la barricade d'insécurité évidemment. Il se bouffe aussi les escaliers de fer, hein, notre ami Broco. Et c'est seulement qu'une fois qu'il arrive à reprendre un petit peu le dessus, qu'il commence à balancer Bobby Lashley à travers tout Suplex City, des F5 qui sont balancés et le Hurtlock est placé. Et là, mon bon Raphaël, on a eu un incroyable selling de la bête qui est devenu tout rouge. Parce qu'au bout de 4 minutes où tu te fais étrangler par un mec comme Bobby Lashley, bah, tu deviens tout rouge. Et c'était un super selling, il commençait à perdre connaissance. On s'est dit, mais attends, c'est pas possible, il va jamais y arriver, hein, notre Brock Lesnar. Sauf que Brock Lesnar, il est malin. Brock Lesnar, il prend appui sur le turnbuckle et Brock Lesnar s'élance, se propulse en arrière. Et 1, 2, 3, les épaules de Bobby Lashley étaient suffisamment au sol, aux yeux de l'arbitre, pour faire le tomber, pour faire le compte de 3. Victoire à la filou de la bête. Hop, un petit coup à la douche, dans le jet privé, et il rentre dans le Minnesota, avec une victoire, mon bon Raphaël.
Ouais, passage à la douche. Brock Lesnar, on peut pas lui enlever quelque chose, c'est que même quand il fait des prestations, on va dire très courtes comme celle-ci, il mouille le maillot, comme on dit, parce qu'il dégouline de tous les pores de la peau, et du slip, comme on dit, d'où l'expression consacrée, hein. Ketchup, c'est une dédicace à Brock Lesnar, mine de rien. Bah écoute, moi j'ai trouvé, bon, de toute façon, on s'attendait pas à beaucoup plus long avec Brock Lesnar, surtout dans un match comme ça de gala où il n'y a pas vraiment d'intérêt, enfin, je continue de pas trop comprendre pourquoi ces deux mecs-là se mettent sur la gueule, mais c'est pas grave, c'est une affiche de Golgoth. Moi j'ai trouvé le finisher un peu mal exécuté, on a du mal à comprendre si c'était voulu qu'il n'y ait pas les deux épaules vraiment au sol, et donc pour nous booker une revanche, ou si c'était juste qu'ils ont mal fait le truc. En tout cas, l'appui pris sur le turnbuckle, comme tu as décrit, ça a été un petit peu long, ça a fait trop chorégraphié, je trouve. Sinon, juste avant ça, c'était très classique. C'est ce que nous fait Brock Lesnar à chaque fois, c'est les 2-3 prises de chaque côté, hein, comme tu l'as bien décrit. Spear contre Suplex City, F5 contre Hurtlock. Joli selling, y a rien à dire, hein. Brock Lesnar, il sait faire, il sait avoir mal, il sait souffrir, il sait grimacer, mais bon, c'était voilà, là on est vraiment dans ce qu'on connaît de Crown Jewel, j'ai trouvé du Golgoth, du bourrin, ça tire pas trop en longueur, on fait ça vite et on rentre vite à la maison, mais quand même une fin un petit peu décevante, je trouve, pour ces deux bonhommes.
Écoute, moi j'ai bien aimé cette fin. Alors, elle a été peut-être piètrement exécutée avec cette histoire d'épaule, je ne sais pas trop. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Bon, voilà, si ça avait été moi, je n'aurais pas fait volontairement une sorte d'erreur arbitrale qui aurait laissé la porte ouverte pour une suite, quand bien même Bobby Lashley, furieux derrière, a remis Brock Lesnar en hurtlock post-match. Hein, donc il n'était pas content, le Bobby Lashley. Donc Brock Lesnar, il est quand même reparti dans le Minnesota. Je suis pas sûr s'il arrivait à marcher tout seul parce qu'il était tout rouge à la fin.
Il avait la nuque douloureuse, ouais.
J'ai beaucoup aimé comme voilà, voilà comme tu dis, hein, deux Golgoth qui se mettent sur la tronche, un Bobby Lashley qui était vraiment montré très très fort, hein, très puissant, puisqu'il a beaucoup, bah, voilà, il a eu le momentum du début du match, il a bien résisté à la Souplesse City, il a pas fait non plus trois fois le tour de Souplesse City, et puis c'est ce Hurtlock là qu'il a réussi à placer sur Lesnar avec ses énormes épaules, hein, c'était quand même assez impressionnant, et puis Lesnar toujours. Toujours le roi du selling, hein, il n'y a pas à dire, il arrive toujours à nous faire croire qu'il est en mauvaise posture, y compris dans ce match. J'ai trouvé qu'ils avaient trouvé justement la bonne formule pour un match de gala, comme tu l'as dit, et que finalement ça te fait un peu à la filoute, et bah, une petite porte de sortie scénaristique plutôt bien trouvée. Donc écoute, moi j'ai bien aimé cet opener, ça m'a mis bien 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 dans l'ambiance.
Bien, tu m'en vas ravi pour toi.
On enchaîne ensuite avec un match de championnat, mon bon Raphaël. Et celui-ci, il a fait du mal au concours de pronostics, puisque Alexa Bliss et Asuka, fraîchement couronnées, fraîchement ceinturées de ce titre de championne de la division tag team féminine, affrontaient ce soir Dakota Kai et Io Sky, Damage Control, pour un match revanche après une petite séquence backstage, hein, d'interview où Byron Saxton demande à Asuka et Alexa Bliss. À quel point elles sont confiantes, hein, dans cette défense qui s'approche. On a eu un petit logo de Bray Wyatt qui a coupé Alexa Bliss dans son élan. Elle était un petit peu perturbée à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas. Tout va bien? Oui, c'est bon, c'est bon. Bah, je ne sais pas si tout allait bien, mon bon Raphaël, parce que visiblement, pas suffisamment pour pouvoir conserver ce titre. Et oui, alors, le match était, j'ai trouvé, peut-être un des meilleurs matchs d'Alexa Bliss depuis qu'Alexa Bliss n'est plus vraiment Alexa Bliss, qu'elle est un petit peu perdue. Je trouvais que d'ailleurs, ces quelques dernières semaines, les filles avaient commencé à nous proposer des matchs, des affrontements un peu plus solides. Et là, peut-être qu'ils ont enfin trouvé la formule. Ça a commencé rapidement avec. Je sais plus qui a commencé. D'ailleurs, c'est Bliss et Dakota Kai qui ont commencé pour leurs équipes. Dakota Kai qui a mis un énorme coup de boule un petit peu, enfin, à un moment donné sur Alexa Bliss qui a un petit peu ouvert le match. Ensuite, on a eu Sky et Asuka qui se sont donc retrouvés. Et là, il y a eu une grosse pop, hein, dans le public. Asuka qui était un petit peu malmenée avant d'avoir de filer le tag à Alexa Bliss. Et puis là, les enchaînements entre les superstars, hein, les catcheuses, pour un match assez assez rythmé. On a eu notamment un Tower of Doom là, avec Asuka qui va chercher tout le monde pour balancer au milieu du ring. Et alors que le match s'approche de sa fin, on a Nikki Cross, l'Écossaise, la petite maligne qui vient foutre le bordel. Elle attaque Alexa Bliss, qui va permettre à Dakota Kai d'aller placer le tombé avec un neckbreaker qui a été placé juste avant. 1, 2, 3, le retour des ceintures du côté de Damage Control, mon bon Raphaël. Eh bien, il fallait le voir venir, celui-ci. Ces ceintures qui ne seront pas restées longtemps autour des hanches d'Alexa Bliss et d'Asuka.
Et non, jusqu'à ce qu'elles y reviennent peut-être, qui sait. Mais là, c'est vrai que pour le concours de pronos, ça a fait mal. Concours de pronos où pour une fois, je m'en suis pas trop mal sorti parce que ces deux dernières éditions avaient été catastrophiques pour ma part. Mais là, celui-là, je l'avais pas eu. Je l'avais pas eu. Petite dédicace à Christophe Ajus à nouveau qui s'est planté, qui a cru voir Bayley attaquer les gentilles. Non, non, c'était bien Nikki Cross. Je pense que toi, tu étais en joie puisque c'est quand même ta meilleure copine. Et puis
Oui.
là, c'est la Nikki Cross qu'on aime voir. Hein. Moi, je suis très content de l'avoir redevenue Nikki Cross de la belle époque de NXT. Et puis qu'on en ait fini avec ces histoires de masques et de costumes. Là, c'est assez stylé. Le match a été assez long. Je n'ai plus le décompte exactement en tête, mais on a eu une bonne durée de match avec Bon, des prestations assez classiques aussi, je trouve, des enchaînements qui étaient attendus, bon, qu'on avait déjà vu pas mal, hein. C'est vrai que les deux japonaises qui se font face, on a déjà un petit peu croisé. C'est vrai que Dakota Kai et Alexa Bliss, elles ont un peu de points communs au niveau de la chevelure, la tignasse un petit peu faux-folle, et qui est des gimmicks un petit peu aussi de quand elles s'énervent, de faciès énervé. Mais on a eu plutôt un bon match, j'ai trouvé, qui a bien fait honneur à la division féminine et à la division tag team. Et voilà, un final assez étonnant, puisque pour le moment, on a plutôt une feud tout autour de Damage Control avec les copines de l'autre côté de Bianca Belair. Mais donc, Nikki Cross, quel est son intérêt? Quel bordel est-elle en train de jouer là-dedans? Je ne sais pas. À suivre. C'était étonnant de voir Damage Control perdre le titre. C'est étonnant de les voir reprendre le titre. Mais du coup, c'est peut-être pas plus mal d'avoir ça que d'avoir eu un statu quo et des championnes qui conservent. Donc, mission plutôt accomplie, je trouve.
Ouais, mission accomplie. Moi, je t'avouais que je l'avais bien senti, moi, ce petit changement de titre
C'est
là qui
pas
allait
vrai.
revenir. Mais bien sûr que si, vous saurez tout à la fin de cette analyse, puisqu'on fera le décompte pour notre championnat concours de pronostics. Les résultats vont tomber, évidemment. Et il y a du grabuge une fois de plus.
Ah là là.
Mais je le sentais bien, parce que je me disais, voilà, on avait refilé ces ceintures à ces filles, mais que quelque chose d'autre allait les attendre, quelque chose de beaucoup plus intéressant avec Asuka et Alexa Bliss, qui étaient bien en forme hein, dans ce match, j'ai trouvé vraiment là. D'ailleurs, de toute façon, quand tu mets Bliss versus Dakota Kai et Asuka versus Io Sky, ça matche bien, toi. Dès que tu
Ouais.
commences à les mélanger, ça marche un petit peu moins bien. Mais les deux japonaises, dont on a d'ailleurs fait tout l'historique, hein, Michael Cole, là, au commentaire, nous a rappelé qu'avant, au Japon, là, elles avaient une faction, toutes les deux. Donc ça, c'est d'ailleurs un truc très récent. Depuis la prise de pouvoir de Tonton Triple H, on fait beaucoup plus référence au passé, à l'historique des catcheurs et des catcheuses, y compris dans les autres fédérations. Et ça rajoute de l'histoire, ça rajoute du contenu, ça rajoute de la matière, de la substance à ces superstars qui parfois, voilà, on a l'impression qu'elles viennent d'arriver. On ne sait pas trop d'où elles viennent. Et là, effectivement, on a joué là-dessus. Hein. On a joué là-dessus sur ces antagonismes assez naturels entre ces catcheuses. Et j'ai trouvé que ça a bien cliqué. Il y a eu quand même pas mal de beaux spots. Et toi, des doubles souplesses qui ont été placées, contrées. On a eu des springboard drop kicks vraiment bien foutus. J'ai trouvé que c'était probablement un des meilleurs matchs de la division tag team depuis un bon bout de temps, là. Donc, mission accomplie pour les filles, tout simplement. Des fois, pendant les weeklies, c'est pas la folie, mais là, dans ce pay-per-view, elles se sont plutôt bien données. On continue. Entre-temps, les frangins, Paul, Logan et Jacounet débarquent avec toutes leurs cliques. Logan Paul nous annonce que ce soir, il va nous surprendre avec ce fameux One Lucky Punch qu'il compte bien placer en main event de ce PLE. Mais c'est bien Karrion Kross versus Drew McIntyre qui s'offre à nous dans un match en cage, mon bon Raphaël. On a enfermé les deux hommes ce soir pour qu'ils puissent régler leur compte. Pour pouvoir gagner, il suffit toi de faire un tombé classique ou un abandon, mais il suffit également tout simplement de sortir de la cage. Alors soit par la petite porte, hein, c'est sympa de laisser une petite porte, soit en passant par-dessus. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup utilisé cette stipulation de la cage pendant le match. Tu me diras ce que tu en as pensé. Bon, les deux hommes se foncent dessus dès que la. Enfin voilà, les deux hommes se foncent dessus quand la cloche sonne. Enfin non, ils se foncent pas dessus, ils se regardent d'abord, voilà. Et puis le match commence. C'est l'Écossais hein, qui place le premier gros coup avec une énorme souplesse. Ça s'échange des gros coups de poing sur la troisième corde. Karrion Kross là qui met un énorme coup de pied à Drew McIntyre. Et puis ça continue entre les deux hommes. Une grosse baston hein, qui reste bien entre au milieu du ring quasiment. Il n'y a pas énormément de spots avec la cage. À un moment donné, Drew McIntyre tente de s'échapper, mais Scarlett lui donne un coup de spray, du pepper spray dans la tronche, de la même façon que lors de leur dernière rencontre. Et puis elle en met aussi un coup à l'arbitre, c'est pas très sympa tout de même. Et elle verrouille la porte, du coup l'Écossais est obligé de passer par au-dessus, pas la troisième corde, mais par au-dessus la cage, et il y parvient avant Karrion Kross. Et donc c'est la victoire de l'Écossais, la victoire de Drew McIntyre, qui est tout content d'avoir gagné, alors que Karrion Kross, lui, n'est pas content, il fait la tronche. Il n'a pas réussi à battre l'Écossais. Un partout, balle au centre, mon bon Raphaël, entre Karrion Kross et Drew McIntyre.
Ouais. Moi, j'ai plutôt aimé l'affrontement parce que, comme tu l'as décrit, il y a eu pas mal de spots de bourrin qui étaient quand même sympas, des superplexes. Drew, il a fait une claymore sans élan là, à un moment donné, qui était assez impressionnante. La souplesse depuis la cage, c'était costaud. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des gros moves costauds et j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai plutôt apprécié, j'ai largement préféré à leur précédente affiche avec le strap match qui était vraiment une catastrophe. Mm. Mais par contre, c'est sûr que si on essaye un petit peu d'avoir un cerveau quand même. La fin, c'est compliqué. Hein. La fin, c'est compliqué. Alors déjà, j'adhère pas du tout, on va dire, dans l'ambiance machiavélique de fin du monde qu'a le couple Kross utiliser une bombe à poivre. La première fois, j'avais trouvé ça douteux. La deuxième fois, je continue de trouver ça pas ouf. Je pense qu'il y a moyen d'inventer un truc qui leur serait propre. Je sais pas, comme le mist d'Asuka ou des japonaises. Là, enfin, un truc un peu que ça fasse pas bombe à poivre acheté au magasin d'à côté. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le concept du steel cage où les mecs essayent de se faire chier à grimper alors qu'il y a une porte qui est ouverte. Donc déjà, de principe, ça me paraît bizarre. Et puis, je rejoins certains avis sur le Discord qui disent que quand il y a deux mecs qui disent qu'ils vont se détruire et que TikTok, ça va être la fin, on va te maraver. Si tu gagnes en sortant par la porte, t'as juste été le plus malin ou le plus rapide. Mais enfin, on va dire que dans la destruction de ton adversaire, t'as pas atteint ton objectif. Donc c'est vrai que cette séquence de fin où il y en a un qui essaye de descendre d'un côté et l'autre de l'autre, pour moi, ce genre de sprint vers qui sera le premier à sortir, je trouve que c'est un vrai enjeu quand il y a une ceinture. Ça peut être vraiment cool de changer une ceinture intercontinentale ou je ne sais quoi sur une sortie de cage. Là, bon, bah, il est sorti. Bon, bah, ok, il est sorti le premier, mais voilà, je trouve que ça a du mal à asseoir une supériorité alors que c'est vraiment l'histoire que veulent nous raconter ces deux hommes. Je suis assez étonné, vraiment, quand Scarlett a bombé l'arbitre et tout, je pensais qu'elle allait rentrer sur le ring, qu'elle allait aller le chercher, son mari, qu'elle allait le prendre par la main pour le tirer. Non, non, elle est restée dehors. Et ça, je n'ai pas trop compris.
Dommage collatéral, cet arbitre qui s'est pris le pepper spray.
Ouais, c'était vraiment gratuit. Donc, il y a des petits trucs qui m'ont pas trop plu. J'ai été assez étonné aussi. J'ai l'impression que la structure de la cage n'est pas celle de d'habitude, qu'elle était plus petite. Ah.
Une cage.
Et d'ailleurs au début quand ils sont arrivés sur le ring et la cage est descendue ensuite. D'habitude on nous fait plutôt l'inverse pour la dramaturgie du gars qui ouvre la porte, qui rentre dans la cage, qui la referme. Il me semble que d'habitude on fait descendre la cage et après les mecs arrivent. Donc il y a 2-3 trucs en réalisation qui m'ont un peu paru bizarres. J'ai trouvé aussi à la caméra qu'on voyait beaucoup plus qu'avant le grillage quand ça nous filmait, puisqu'il n'y a pas de caméraman dans la cage. Donc est-ce qu'ils ont des mailles plus serrées aussi? Je ne sais pas. Il y a plein de petits trucs qui m'ont fait dire, tiens, j'ai l'impression que c'est pas comme d'habitude. Pour résumer, j'ai bien aimé la baston, mais ce qu'on nous raconte là entre ces deux hommes, surtout Karrion Kross, hein, qui en son côté fin du monde, sablier, ça y est, c'est la fin pour trois, dont McIntyre. Bon, si son but c'était juste de sortir de la cage avant l'Écossais, c'est léger quand même comme destruction. Psychologiquement. Mais bon.
Non, c'est vrai qu'il y a un décalage, c'était peut-être pas la meilleure stipulation à faire. C'est amusant d'ailleurs, puisque leur premier match, leur stipu, c'était d'être attachés pour que justement ils puissent pas s'enfuir, pour qu'ils puissent vraiment régler leur compte. Et la rivalité continue, donc la rivalité est plus forte, la rivalité est plus intense, mais cette fois-ci, l'objectif, c'est de s'enfuir. Donc c'est vrai que dans la façon de traduire la rivalité via les stipulations, ce qui est normalement le cas, hein, la stipulation doit matcher, correspondre à l'état où en est la rivalité. Deux mecs qui veulent se détruire sans aucune intervention, bah voilà, on va les mettre dans un Hell in a Cell à la fin. Là, c'est vrai que, de toute façon, comme tu l'as dit, cette stipulation de Steel Cage, elle est un peu bancale et elle se prête pas forcément toujours à ce genre de grosse rivalité brutale où on en est juste à vouloir détruire un mec. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Limite, ça devrait être celui qui sort de la cage a perdu. Parce que c'est-à-dire qu'il s'enfuit.
Bah c'est le principe du Wargames aussi, donc peut-être qu'ils vont intégrer les futurs Wargames, ces deux-là, je ne sais pas. Mais oui, ou alors au moins on pourrait cadenasser de base la porte et les obliger à grimper, parce que grimper, il y a toujours une petite dramaturgie esthétique, mais je sais pas, il y a un truc qui allait pas là.
Ouais. Non, non, bon, écoute, c'est vrai. Bon, le match, moi, clairement, cette rivalité ne m'emballe pas. De toute façon, le match était vraiment sans plus. Et c'est vrai qu'on ressent pas, il y a un décalage vraiment là entre toute la mise en scène, voilà, l'esthétique, l'entrée de ce couple diabolique, démoniaque, qui nous annonce la fin du monde, la famine, la guerre. Voilà, ce sont des mots qui sont lancés sur leur titre en tronc. Et finalement, une fois que les lumières s'allument et que les matchs commencent, les affrontements commencent, on perd tout ça, hein, on perd tout ça. On n'a plus ce côté complètement brutal, ce côté complètement presque démoniaque, toi, avec cette sorcière là de Scarlett qui rôde autour, mais qui finalement utilise des, voilà, comme tu dis, une bombe à spray à 2 € chez Action là, c'est pas. Ouais, c'est pas ça, ça manque de mise en scène et de créativité. Et je comprends qu'on puisse effectivement être un petit peu déçu par le rendu, quoi, final, de cet affrontement.
Mais sûrement que le beau costume de Scarlett a dû plaire à certains princes saoudiens, je pense, parce que
Oui.
le dress code pour les femmes, de ne pas en dévoiler trop, parfois, finalement, ça a du bon,
Bah chaque année on progresse, si je peux dire, on
hein.
progresse dans à la fois alors les costumes, puisque bah, on est loin dorénavant des fameux t-shirts flottants de Natalia et Lacey Evans dans le premier match féminin en Arabie Saoudite. Dorénavant, elles ont toutes des combinaisons intégrales, mais qui laissent apparaître les formes, qui sont customisées, voilà, elles sont toutes devenues customisées, que ce soit avec leurs couleurs resplendissantes comme Asuka, ou alors là, Scarlett qui nous propose un costume. En plus, elle avait des pointes posées
Sur les joues.
sur les joues et tout. Enfin, c'était très, très. Enfin, clairement, son costume, tu aurais pu le mettre ailleurs que pour ce pay-per-view en Arabie Saoudite. Ça pouvait passer. Et puis après aussi dans la gestuelle, dans le body language, elle se lâche un peu plus, les filles, que ça soit Scarlett ce soir ou Rhea Ripley, on le verra plus, bah, dans le match qui suit juste après. Voilà, elles sont pas juste là à ne rien faire, quoi. Et c'est plutôt, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien.
C'est bien.
Ouais, c'est bien. Bon, bah justement Rhea Ripley, on va en parler si tu veux bien, puisque le match qui suit, c'est tout simplement The OC, The Original Club, qui affronte Judgment Day 1-3. V3 entre les deux factions qui se mettent sur la tronche depuis quelques semaines. Donc le Judgment Day contre Z aussi. Donc AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows contre Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. On entre avec, bah, c'est toujours un pareil, le super décorum, la grosse entrée du Judgment Day. Avec Rhea Ripley qui entre, et voilà, Rhea Ripley qui susurre toujours des petites choses, des mots doux à Dominic Mysterio. Tout le monde a le droit à faire ses pauses. Et c'est Anderson et Balor qui commencent, hein, les deux anciens du club, qui passent assez rapidement le tag au gros costaud, hein, Damian Priest et Luke Gallows. Qui est le plus fort? Ça se met des gros coups d'épaule dans la tronche. Et puis Damien Priest qui prend le dessus avec un cheap shot. AJ Styles et Mysterio arrivent à leur tour. Et puis le bordel commence avec Z aussi qui prennent le contrôle tout simplement parce que Dominique il est jeune donc il fait encore un petit peu des erreurs. Là ils veulent lui donner une bonne leçon. Et puis la cadence, le rythme du match commence. À s'emballer, on commence à avoir des spots à 2, à 3, à gauche, à droite. La foule commence à bien rentrer dans le match. AJ Styles et Finn Balor se retrouvent face à face, mais Rhea Ripley finira par intervenir, hein, et à attaquer AJ Styles. Je crois qu'elle le slam, hein, sur le rebord du tablier du ring alors qu'il était en train de préparer son phénoménal forearm. Et ce qui permet du coup à Finn Balor de placer le coup de grâce pour la victoire. 1, 2, 3, victoire du Judgment Day qui, qu'on n'arrête plus, le Judgment Day gagne dorénavant dans tous les pay-per-view, mon bon Raphaël.
Ah bah oui, quel renversement de situation. Et je pense qu'il y a un avant et un après Dominique avec cette équipe. Hein. Clairement, Dominique, même s'il prend cher dans la tronche et que sportivement, on n'a pas l'impression qu'il leur apporte beaucoup, ça serait peut-être leur petite trèfle à quatre feuilles, là, leur petit porte-bonheur. Alors, ils ont raison de le chouchouter. Moi, j'ai bien aimé, globalement. Je suis vraiment content de revoir Gallows et Anderson. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand ils étaient là avant, je n'étais pas spécialement un gros fan, mais j'aime bien leur gueule. Là. Je trouve qu'ils ont... Voilà, ils ont des bonnes gueules de vrais catcheurs là, qui peuvent être partout. Circuit indépendant, WWE, ils sont les deux chauves méchants, là, surtout Luke Gallows. C'est vrai qu'il y a eu une séquence au début que j'ai bien aimé, là, les Big Boots et les grands coups avec Damian Priest. Bon, ouais. Par contre, ils n'ont toujours pas résolu leur fameux rehab problem, donc je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'une femme va intégrer The OC? Je ne sais pas, mais Rhea continue de marcher sur les eaux et d'être la grande star de cette faction. Donc, la victoire est là, le match était plutôt plaisant, moi j'ai bien aimé. On a quand même beaucoup de talent hein, sur le ring, on va pas le nier. AJ Styles, c'est bien de lui avoir ramené ses copains, parce qu'on sait qu'il est quand même en petite fin de carrière, tranquillou, donc il est plus tout à fait dans un registre à prétendre à des grands main events, mais là, il est tout à fait à sa place. En face, Finn Balor, bon, il déroule, hein, il fait à peu près ce qu'il sait faire, pas de grande surprise chez Finn Balor, mais ça tient le dessus. Non, on a une scène tag team qui vit et qui est plutôt agréable, donc j'ai bien aimé l'affrontement. Peut-être juste un petit peu dommage que, comme tu dis, ils ont encore gagné, bah ça revient souvent que c'est Rhea Ripley qui coûte la défaite aux adversaires du Judgment Day, donc c'est bien beau de dire on a un problème avec Rhea, mais bon, do something, comme on dit.
Ouais, do something about it. Rhea Ripley, là, qui est arrivé, effectivement, une petite coupe de cheveux en dédicace à Beth Phoenix, visiblement, Ripley, ouais, voilà, qui est le petit maillon supplémentaire qui donne la victoire. Hein. Est-ce que Zee aussi a besoin d'une Rhea Ripley dans son camp? Peut-être, en tout cas, il va falloir régler ce problème, parce que pour le Judgment Day, c'est une victoire de plus dans la poche, et au détriment de Zee aussi, dans un match qui, effectivement, j'ai trouvé était simple mais efficace entre les deux équipes. Ça a plutôt bien matché, et on va pouvoir du coup enchaîner avec le géant contre le monstre. C'était une des grosses affiches de ce PLE en Arabie Saoudite, à Riyad. Voilà, on a d'un côté Omos qui fait plus de 200 kilos, 2m30, de l'autre côté Braun Strowman qui ne fait que 2m10 et qui fait que 180 kilos. Quel est le gagnant? Qui va réussir à ressortir vainqueur de ce match des géants, de ce match des monstres? Omos, Braun Strowman avec des grosses entrées, hein, une fois de plus, pour les deux hommes. Un match qui était évidemment très attendu pour tous ceux qui aiment la folie des grandeurs à la WWE. On a un gros face-à-face. Omos qui repousse Braun Strowman avec un énorme coup de pied. Il se retrouve d'ailleurs, Braun Strowman se retrouve dans le coin. Il se fait charger. Big boot sur Strowman. Strowman qui se retrouve donc en bas du ring. Il le prend, il attrape le Nigérian pour lui faire un slam, mais Omos qui le bloque, le body slam est placé, un autre body slam d'Omos, 1-2, mais non, la victoire n'est toujours pas là. Strowman se bouffe un chokeslam, évite le chokeslam justement, et cette fois-ci il reprend l'avantage. Quelques droites mises dans la tronche d'Omos, mais Omos qui ne bouge pas, il est sorti du ring. La course, le chouchou, le petit train de Strowman, mais Omos qui bloque le monstre parmi les monstres, le monstre parmi les hommes, le monstre parmi les géants. Strowman est renvoyé sur le ring par Omos, mais Strowman évite la dernière attaque du Nigérian et il place son running power slam assez rapidement, c'est une séquence plutôt bien fichue, pour le compte de 3, 1, 2, 3... Braun Strowman a réussi, Braun Strowman a vaincu, plus grand que lui, Raphaël.
Bah oui, ça y est, le revoilà dans la course, Braun. Bah écoute, ravi pour lui. Ça n'a pas été... Hyper simple de le pronostiquer, celui-ci. Moi, je voyais plutôt, mais je me trompe peut-être, une FUD qui n'aura pas qu'une seule manche, surtout qu'MVP n'était pas là, puisque ben, Braun Strowman l'a un peu neutralisé à SmackDown. Donc, ça aurait pu être un premier coup pour le géant, pour une revanche. Mais bon, j'ai eu mon point, parce que je me suis dit qu'à Riyad, on était un peu dans le spot des faces, souvent. Moi, j'ai trouvé que bah, ça matchait plutôt pas mal. Hein. Les Golgoths, là, c'est un niveau encore au-dessus. Le chouchou contré là, de Homos, c'était assez monstrueux. Les body slams qu'il se passe, bah, le final, hein, c'est quand même voilà, la montagne de muscles et de viande là qu'on a, c'est quand même spectaculaire.
Incroyable.
Bon, c'était un peu court peut-être, mais il n'en faut pas plus, je pense. Je trouve qu'Homos. Et meilleur, il gagne en intérêt quand il était à ses débuts. Hein, c'est quand même un très jeune catcheur. À ses débuts avec AJ Styles et autres, il y avait quand même un souci d'inexpression et d'acting qu'il est en train d'améliorer, je trouve, en faisant beaucoup de trash talk. Et ça marche pas mal, surtout qu'on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais il a cette grosse voix de géant qui résonne en nous. Et puis Strowman, bah, il a un petit côté Brock Lesnar, je trouve. Il transpire vite énormément. Il scelle, bon. Pas autant que Brock, mais on sent qu'il était dans le mal là, qu'il a bien pris un camion sur la tronche. Donc, bah, la fiche de géant, ça rappelle, il faut ça, hein, la WWE, ça rappelle des matchs qu'on a pu avoir, je sais pas, des Big Show contre Mark Henry ou contre Kane. Bah oui, c'est pas des virtuoses, on va pas nous faire des Shooting Star Press, c'est dommage, ça serait intéressant. Mais, c'est une affiche de WrestleMania, comme on dit, c'est une affiche de Big Giants. Donc, pour moi, ça a rempli sa mission et. Homos, qui n'avait pas l'air d'être forcément dans les gros plans du nouveau patron Triple H, va être sûrement utilisé pour monter Strowman assez haut. Mais, il m'a presque donné envie de continuer à lui donner sa chance à Homos et qu'il ait encore quelques bonnes prestations. Il ne faut pas l'enterrer tout de suite parce que je pense qu'on a besoin quand même dans la fédération d'un géant de 2,30 m.
On a tous besoin d'un géant de 2,30 m
Ben
dans la vie. Bon, bah écoute, ce soir, c'était la victoire de Braun Strowman. Probablement le meilleur match d'Homos à la WWE depuis un bon bout de temps, là. Belle entrée, hein, t'as vu, il arrivait avec sa cagoule, enfin sa capuche sur la tête, là, c'était impressionnant, j'ai trouvé. Hein. Faut les saper, les géants, comme ça, là. Faut pas les laisser juste à moitié à poil, là. Ils sont toujours impressionnants quand ils mettent des costards bien cintrés, ou alors là, avec cette capuche, là, qui lui tombe sur la tronche. Et surtout, à noter, effectivement, tu l'as dit, hein, c'est ce trash talk. Ça rajoute toute la différence, hein. Avant, il passait son temps juste à essayer de cogiter, voir quel coup suivant il allait porter. Là, il y avait vraiment un peu plus de vie dans ce géant nigérien. Et plutôt, bah, moi j'ai trouvé que ce match remplissait son contrat, à savoir bah, deux géants qui se tapent dessus, qui sont assez limités, mais qui sont bah, voilà, des phénomènes de foire, voilà, dans un stade devant 95 000 personnes en Arabie Saoudite, avec l'argent qui pleut du ciel et les drones qui tirent des rayons laser. Voilà, c'est ça, on est en 2022. Et voilà le spectacle que la WWE nous propose. On va direction la division tag team avec les frangins Ouzo qui sont là sur leur chemin de battre le record des New Day, mais une autre étape les attend. Avant cela, c'est les Brawling Brutes qui sont dans un gros momentum, hein, les petits poulains, les poulains de Sheamus qui est malheureusement blessé, donc qui n'a pas fait de déplacement, mais donc les Brawling Brutes qui ont à cœur de rendre hommage à leur mentor ce soir. D'ailleurs, il y aura plusieurs petits clins d'œil qui seront faits à l'Irlandais tout au long de ce match. Un match bah, finalement moins long que l'impression qu'il m'avait donné, mon bon Raphaël, puisqu'il a duré à peine 10 minutes, là, ce match. 10 minutes 46 pour être exact. Donc c'était un match très rythmé entre les deux opposants. C'est Butch et Jimmy qui commencent. Jay, d'ailleurs, qui a rapidement assommé. Butch qui va reprendre le contrôle à son tour. Voilà, on travaille les articulations, hein, du côté de Boubouch. À plusieurs reprises, on a plusieurs plans où il tord et casse les doigts des frangins Ouzo. D'ailleurs, quand on. Enfin, les frangins Ouzo qui sont venus tout seuls. On a vraiment du 2v2, la classique. La Bloodline n'est pas au complet Lors de ce match, elle ne sera d'ailleurs pas au complet ce soir. L'autre, une bonne partie, se préserve évidemment pour le main event. On a Ridge Holland qui était totalement enragé, là, le powerhouse des Brawling Brutes, qui nettoie le ring. Les deux équipes se rendent coup pour coup. On a pas mal de moves à deux, notamment les Usos, qui évidemment en profitent, qui ont voilà, un gros historique de tag team. La victoire est presque là avec ce fameux White Noise placé par Ridge Holland en criant, je crois qu'il crie Sheamus, tout ça, tout fort, avant de placer la prise de l'Irlandais. C'était magnifique, mais les Usos parviennent à casser, le tomber est cassé, et on a le move final pour la victoire des Usos. Une espèce de Wendy là, qui modifie un super Wendy pour le compte de 3, 1, 2, 3. Victoire des Usos qui conservent le titre. Les Usos qui vont aller tout simplement défendre leur titre, je crois, à SmackDown pour peut-être briser le record des New Day. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui ont posé? Donc, il y a vu les Usos défendre leur titre face aux Brawling Brutes.
Eh bien écoute, si, moi j'avais eu cette perception que c'était assez rapide, j'étais un petit peu déçu. Fin, j'ai bien aimé l'affrontement globalement quand même. J'aime beaucoup Butch, j'ai hâte de le voir faire plein de choses sympas. C'est vrai que c'est toujours visuel quand il pète les doigts de ses adversaires. Peut-être qu'il y a un petit peu de lassitude, je sais pas comment dire. Ils sont champions depuis très longtemps, les Usos. Je trouve qu'ils arrivent peut-être pas autant que leur cousin Roman Reigns a créé à chaque match une espèce d'ambiance charismatique qui fait que à chaque fois on a l'impression que c'est une énorme presta. Là c'était voilà, c'était la presta classique, je trouve, des beaux moves. On a eu quelques nirfolles qui m'ont presque fait croire que effectivement qu'il allait avoir un coup du sort possible, mais globalement voilà, ils conservent et c'était à peu près ce qu'on imaginait. Et j'ai trouvé le finish bon, ils sont allés chercher un petit peu plus loin en faisant cette prise sur le turnbuckle, mais peut-être arrivé un petit peu vite, oui, c'est ça. Je suis là, bon, je m'attendais à un match un peu plus long, et du coup, ça m'a pas scotché sur le rendu, mais c'était quand même de qualité. 10 minutes, un petit peu court quand même, un petit peu court.
Ouais, bah effectivement, 10 minutes, un match rythmé. Oui, ça aurait pu être un main event de Weekly, ça avait aussi sa place en pay-per-view. Oui. On aurait pu mettre 5 minutes de plus, c'est vrai. Parce qu'il faut rappeler que ce PLE, comme il durait quasiment 4 heures, hein, je crois qu'il durait 3h40 en tout, et qu'à ce moment-là, il reste encore beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on arrive au main event. Il restait largement le temps pour peut-être placer 5 minutes de plus pour faire plaisir à Raphaël. Mais voilà, on n'a pas voulu te faire plaisir, Raphaël, on a voulu te frustrer un petit peu. Et c'est vrai que les Usos, voilà, ils ont tout fait, ils ont tout vu, ils ont tout connu, et Brawling Brutes apportait un peu de fraîcheur, donc on aurait pu leur offrir 5 minutes. Bon, écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce match malgré tout, hein, tous les petits clins d'œil là de Sheamus, il y a eu le White Noise, il y a eu les 10 coups là du Rouen là, qui ont d'ailleurs pas été jusqu'au 10e. Voilà, tous les petits clins d'œil qui ont été faits à Sheamus. C'est vrai que limite, moi je suis presque triste de me dire que bah voilà, ils vont retourner à la fin de la ligne, à la file d'attente là, et c'est tellement bouché là, peut-être trop, hein, ces deux ceintures. On a l'impression que le destin des ceintures est lié aussi au destin de Roman Reigns. C'est que du coup, toutes ces équipes qu'on arrive à monter, hein, les Brawling Brutes, on a réussi à faire un super face turn avec eux, on a réussi à en faire des main eventers de la division tag team. Et tout le monde vient se casser un peu les dents, quoi. Hein, c'est ça qui est dommage, et qu'à la fin, on se retrouve avec encore un New Day versus Uso en weekly ce vendredi.
Ouais, bon, ça me plaît bien, je trouve. C'est un petit rappel historique, c'est un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que y a un règne historique des New Day, qu'on a tous connu ce règne historique, et j'y pensais pendant la diffusion. On n'aurait pas pensé, je pense, voir ce règne déjà mis en danger, j'ai envie de dire du vivant du New Day, en tout cas de leur carrière, quoi, parce que c'était un règne qui avait 25 ans, donc on se dit, allez, il va avoir 20 ans de plus, et puis. Tes enfants, IRM, ce Giscal, commenteront dans Catch-Up en disant « Oh là là, le règne historique des New Day, il va être battu, là, mon père a connu ça. » Et puis non, en fait, 3-4 ans après, ou peut-être un petit peu plus, je sais pas, ça y est, c'est les Usos qui s'en emparent. Donc je trouve que le clin d'œil à SmackDown va être sympa, puis ça relance un petit peu les New Day qui, pour le coup, sont quand même, eux, plantés plus dans le creux de la vague. Mais oui, c'est un problème qu'on a déjà évoqué. Fusionner des ceintures, ça fait des champions hyper balèzes. Mais derrière, bah oui, on se dit bien que, bah, par exemple, le Judgment Day, le DOC, l'Alpha Academy, enfin, il y a plein de petites tag teams sympas et qui, c'est même pas qu'ils deviendraient champions, c'est qu'ils n'auront même pas d'opportunité, puisque entre les alignements heel et face, ça nous prive quand même de pas mal de choses. Donc, bon, mais c'est bien aussi, du coup, ça veut dire que quand on devient challenger, c'est que vraiment on l'a mérité, et c'est le cas des Brawling Brutes qui ont fait une belle prestation ces derniers mois. Et après, à voir, mais oui, les Usos sont tout au sommet de la montagne, et moi, je suis convaincu qu'ils battront ce record de longévité désormais, ça paraît inévitable.
Oui, ça paraît inévitable, tu l'as dit. Et ce qui est inévitable, c'était cet affrontement entre Bayley et Bianca Belair dans une stipulation, tout simplement, un Last Woman Standing Match. Il faut que votre adversaire reste 10 minutes, 10 minutes, 10 secondes, 10 minutes, ça aurait été un long,
Un long
petit
match,
peu long.
ouais. Il faut
Si
avoir
la
un
chute,
but.
c'est 10 minutes. Ouais, tu bouges pas là, on revient. 10 secondes pour pouvoir remporter la mise, Bianca Belair contre Bayley du Damage Control. Les deux femmes s'étaient déjà rencontrées. Bianca Belair avait tout simplement vaincu Bayley et non seulement, mais tout le Damage Control. On se commence à poser des questions. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne avec cette stipulation? Ça commence fort avec Bianca Belair qui balance des body slams. Bayley est obligée d'aller à l'extérieur pour récupérer un kendo stick. On va utiliser pas mal de matériel, pas mal de matos hein, ce soir dans ce match. D'ailleurs, après, Bayley s'empare d'une chaise, mais ça se retourne contre elle, elle se prend la chaise dans la tronche. On sort une échelle, on a un crossbody qui met à l'amende la championne. On se retrouve à l'extérieur du ring. Belair est prise au piège derrière. En dessous, tout à la fois des escaliers de fer pour un spot. Écoute, j'ai trouvé que ce match était assez créatif, assez imaginatif. Les deux filles là ont inventé ou réinventé pas mal de spots là. Avec, t'avais la petite tête de Bianca Belair qui dépassait. Elle était coincée là entre le ring et les escaliers. On serait cru dans un stand de foire là où tu dois avec ton petit marteau, tu dois taper sur la tête des marmottes qui sortent de terre. C'était assez drôle. Mais ça n'a pas suffi puisque Bianca Belair est parvenue à sortir de ce mauvais pas. Bayley ensuite balance Bianca Belair dans une caisse, carrément. Et ça ne suffit pas non plus. Bianca Belair qui arrive à s'en sortir. On se demande mais où est passé Bayley? Ben Bayley allait chercher la voiture de golf du prince d'Arabie Saoudite, tout simplement, pour tenter de bah, tout simplement d'écraser, de tuer hein, Bianca Belair. Alors elles ont été gentilles, ce spot, je ne sais pas si ça. Mais. Elles ont vraiment. Enfin, on n'y a pas cru une seule seconde. Hein. Cette voiture de golf, là, elle s'est arrêtée 2 mètres avant et Bianca Belair était largement en sécurité. On se retrouve sur le toit de la voiture de golf. On se dit, tiens, elle va placer peut-être un KOD depuis la voiture de golf. Mais non, puisque Bianca Belair, après avoir posé. Bayley allongé Bayley sur le toit de la voiturette, et ben elle roule jusqu'en bas du Titantron, sur la rampe, jusqu'en bas de la rampe. D'ailleurs, elle est un petit peu vite. Hein. Je me suis dit, l'autre, elle va. Bayley, elle va se retrouver propulsée. Et là, on voit donc Bayley qui passe à travers une table, mais ça ne se casse pas. C'était un gros spot, là, ça a dû faire bien, bien mal. Du coup, Belair la reprend, la chope et lui fait une grosse powerbomb. Et cette fois-ci, c'est passé, mon bon Raphaël, on est rassuré. La table est cassée, elle est brisée en deux, donc tout va bien. Et puis Belair, tout simplement, qui va intelligemment placer Bayley, la coincer dans une échelle, placée sous les cordes près du turnbuckle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non pas 10 minutes, mais 10 secondes, mon bon Raphaël. Et la victoire de Bianca Belair. Écoute, dans un match que j'ai trouvé mais 1000 fois mieux que leur premier affrontement et super créatif. Est-ce que tu as apprécié cette créativité féminine en Arabie Saoudite?
Bah déjà, je tiens à dire que si tous les arbitres faisaient le compte de 10 comme toi, on aurait des Last Man et Last Woman Standing Match qui dureraient à peu près 2 minutes. Donc, tu peux postuler, parce que je pense que dès le premier spot, c'est fini. Je partage tout à fait ton avis. Je trouve qu'elles ont fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire sortir la boîte à jouer, hein, nous amuser, nous faire kiffer. Là, on aurait presque dit, j'ai trouvé un match quand ils font pour Noël ou pour le Nouvel An, à nous faire péter des trucs partout. J'ai bien aimé le spot là où elle la coince, effectivement, dans la caisse de transport. Même si elle est con, elle aurait dû monter dessus dès le début, la Bailey.
Oui, mais je pense que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de bloquer. Ça empêcherait le compte, le décompte.
Ah, ben,
Physiquement, t'as pas le droit. Tu peux bloquer quelqu'un avec du matos, mais si tu vas dessus, je pense que ça annule le compte. C'est notamment pour ça que Roman Reigns n'était pas monté sur la montagne de piles de chaises de Brock Lesnar avant le compte de 10 lors de leur précédent match à SummerSlam, si je dis pas de bêtises.
Eh ben, j'allais te dire le contraire, moi, il me semble. Moi, j'étais persuadé de la même règle que toi, que tu pouvais pas intervenir physiquement sur la personne pendant que l'arbitre comptait à 10, mais il me semblait justement que Roman Reigns avait brisé cette règle en mettant le pied sur les échelles ou un truc comme ça.
Je crois qu'il a commencé à monter, tu vois, on était genre au compte de 9, toi, et du coup, on était un peu dans une zone grise. Je pense qu'il s'est un peu précipité et que si
Ouais.
l'arbitre avait bien fait son travail, mais bon, les arbitres à la WWE sont
Non.
les arbitres à la WWE, il aurait dû arrêter ses comptes, mais le final aurait été du coup peut-être différent. Mais je pense que tu n'as pas le droit de monter dessus, mais bon, il y a des règles un peu floues à la WWE.
Ouais, en tout cas, c'était rigolo. Il y a eu pas mal de séquences effectivement rigolotes. Alors, quand elle la coince entre l'escalier et le tablier du ring, bon, c'était rigolo. C'était un peu con parce que si elle avait suivi les prestations d'Hornswoggle ou autre, elle sait qu'elle aurait pu ressortir de l'autre côté quand même, de sous le ring, et pas ressortir à
Oui,
chaque fois pile dans cette.
moi je pensais qu'elle allait faire ça, tu sais. Même au moment où
Non.
je crois qu'on la voit un petit peu bouger en dessous, on se dit, ah bah elle va passer, on va la voir arriver, tu sais, par l'autre côté de
Ouais.
l'angle de la caméra. Bah non, elle ressortait toujours ta petite tête qui ressortait par les escaliers.
Ouais, mais sinon c'était très inventif. Bon, effectivement, il y a eu deux trois spots. On s'est dit non, là, ça va pas passer. La voiturette de golf, ça n'a pas quand même marché. Mais aussi le spot ouais, qui était vraiment impressionnant, c'est la table qui pète pas. Là, j'ai eu bien mal pour elle. C'est jamais bon signe quand la table pète pas, quand on te projette dessus. Mais et puis mon autre point de d'étonnement, c'est qu'en fait j'ai raté le final parce que ça arrive parfois malheureusement dans un show. On est désolé, nous sommes humains, on a des distractions, on a un message sur un téléphone, on a un petit coup de boisson à ingérer pour tenir, et puis bah je sais pas, ça sentait pas le spot final en fait, donc je me suis un peu déconcentré, et puis ah bah merde, c'était le décompte de 10. C'était peut-être trop inventif ce coup-ci pour que je le sente venir, mais bah, c'est peut-être un crédit à leur mettre aussi. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une super presta. Moi, je suis toujours très content que Bayley ne gagne pas le titre, même si je vois que ça bruisse sur les Discord et tout. Non, moi, c'est pas parce que tu reviens de blessure et que tu veux faire un truc fort qu'il faut te donner la ceinture de suite au bout de 2 mois. Bianca Belair est une très bonne championne, je trouve. Bayley est une challengeuse heel qui est prête à tout, donc il faut qu'elle reste challengeuse, c'est pas mal non plus. Non, là, vraiment très très bonne surprise pour ce match. Je vais pas dire que j'en attendais pas grand-chose parce qu'un Last Woman Standing match, ça laisse justement plein de possibilités, mais ils ont rempli la mission là aussi, et je trouve qu'ils ont bien diverti la foule dont je faisais partie.
Ouais, bah, pour moi, vraiment, ils ont corrigé
Ouais.
ce qui n'avait pas fonctionné avec leur premier match, tout simplement. Là, on a vraiment eu un match intelligent avec une Bailey qui perd, mais qui était forte et qui était voilà, inventive. Et surtout, on n'a pas fait de l'overbooking avec toute sa faction qui se fait rouler dessus par une seule personne et qui, du coup, en fait, voilà, terminait l'histoire. Enfin, une fois que tu fais un 1v3, quoi, grosso modo, que tu élimines toute une faction. Bon, c'était un petit peu compliqué. Là, non, le match était super inventif, super créatif, super imaginatif. Toi, s'il fallait en Arabie Saoudite pour avoir un excellent match de division féminine, moi je ne comprends plus rien, mon bon Raphaël. Les femmes se sentent libérées là en Arabie Saoudite. Tout est inversé. On est dans le upside down world. C'est assez incroyable.
Ah bah oui, peut-être que elles se rebelleront, les femmes d'Arabie Saoudite, je leur souhaite. Ouais. Je sais pas si je
Ah
leur
bah
souhaite,
oui.
parce que ça se passe pas très bien en Iran, mais je leur souhaite une prise de conscience. Mais peut-être que voilà, admiratives devant Bayley et Bianca Belair, elles vont vouloir montrer qu'elles aussi elles savent faire des choses, ça serait bien, ouais.
En tout cas, la foule était plutôt bien embarquée dans ce match. Il y a eu des chants pour les deux, hein, Bianca Belair et Bayley. Il y avait vraiment une bonne ambiance. D'ailleurs, tout au long de son pay-per-view, il y a eu des creux, mais quand la foule était vraiment derrière un match, derrière des catcheurs, derrière des catcheuses, il y avait quand même une belle, belle ambiance dans ce stade au nom imprononçable. Et d'ailleurs, gros accueil pour Bray Wyatt ce soir. Il vient avec sa petite lanterne. Bray Wyatt est bien là en chair et en os. Welcome back, chante la foule. Alors le mec, bien, je suis pas sûr, est-ce qu'il est déjà allé en Arabie? Oui, parce qu'il était venu en Arabie Saoudite en tant que Finn. En tant que Finn, il était devenu champion en Arabie Saoudite, donc c'est un beau souvenir pour Bray Wyatt, même s'il commence à se, bah voilà, à se poser des questions. Hein. Il est dans l'auto-analyse en permanence, donc il serait introduit. Ouais, voilà, je suis Bray Wyatt, je suis le vrai Bray Wyatt. Il parle, voilà, il fait un petit peu le bilan. Et avant, voilà, j'aurais fait n'importe quoi pour que les fans exactement obtiennent ce qu'ils veulent, mais voilà, ça m'a un petit peu perdu. Il nous explique d'ailleurs très intéressant, hein. Il nous explique qu'il vient d'une famille prestigieuse de catcheurs et de catcheuses, hein. Effectivement, les Rotunda, on les connaît, hein. Père et fils, et que il a vécu une vie où un peu sous pression, en fait, hein. Tout ce qu'il faisait, c'était jamais assez, il fallait en faire plus, il fallait être le plus fort, il fallait être le meilleur de la famille. Et du coup, pour y arriver, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais finalement, il s'est un petit peu abandonné lui-même et il est devenu un monstre. Il a fait de lui un monstre, un monstre caché sous un masque. Et à la fois, il regrette, mais en même temps, il ne renie pas, hein, ce qu'il a fait. Et c'est tout un petit peu la dissonance, en tout cas le duel psychologique qui s'opère dans le crâne de notre ami Bray Wyatt. Parce que sous le masque, il était intouchable. Il fait évidemment au fin. Et c'est vrai que c'est amusant qu'il se retrouve en Arabie Saoudite pour nous parler de ça, puisqu'il est devenu champion, le Finn est devenu champion face à Seth Rollins en Arabie Saoudite. Là aussi, on avait corrigé un premier match douloureux, souviens-toi Raphaël, hein, en faisant
Quelle horreur.
L'Arabie Saoudite, on corrige. L'Arabie Saoudite est l'hôpital de la WWE, tout simplement, l'hôpital des bookers de la WWE. Et puis voilà, il nous explique qu'il s'est retrouvé dans un royaume de rien du tout, et puis que personne n'aimait Bray Wyatt. Tout le monde dit mais si, on t'est we love you, tout le monde le chante, a une belle interaction avec le public. Et puis, son nom est peut-être Bray Wyatt. Il veut réécrire la fin de son histoire, et l'oncle Audi apparaît, hein, ce nouveau personnage apparaît à l'écran. Et il demande à Bray Wyatt pourquoi il porte un masque, pourquoi tu portes un masque, mais tu peux pas le tromper. Il voit très bien justement sous son masque. Alors il sous-entend que le vrai masque de Bray Wyatt, c'est celui qu'on voit là, hein, c'est le fameux Bray Wyatt qui se fait passer pour le vrai Bray Wyatt. Il faut suivre. Hein. Il dit qu'il le connaît, qui mieux que l'oncle Audi, qui connaît mieux Bray Wyatt que ce bon vieux oncle, ce tonton Audi. La vérité, c'est que Bray Wyatt est allé trop loin. Et quand Bray Wyatt va trop loin, il va finir par se souvenir à quel point c'est bon de faire tout ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que se termine cette séance de psychologie à cœur et à ciel ouvert, avec des drones qui étaient aussi dans le ciel. Et Bray Wyatt qui a ouvert son cœur, une fois de plus, sa tête, son crâne aux fans. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle itération de Bray Wyatt, de cette auto-analyse de Bray?
Ouais, c'est compliqué hein, quand même, Bray Wyatt, je trouve. Autant c'est un athlète, un catcheur, un artiste qui est quand même vraiment à part et qui aura réussi quelque chose d'assez inédit à la WWE. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. On parle souvent de l'Undertaker ou autre, mais c'est vrai que voilà, du petit Husky Harris tout timide, on a eu tout ce qu'on connaît. On va pas refaire l'histoire, là. Le Bray Wyatt du Bayou avec la Wyatt Family, le passage The Fiend, etc. Et là, il revient avec une popularité énorme. Enfin, je pense que mondialement, c'était un des catcheurs les plus attendus par les fans. Mais de l'autre côté, moi, je trouve que ça tourne quand même pas mal en rond, toujours. Hein. Déjà, on l'analysait hein, dans Catch Up, hein, que ce soit dans son époque du Fiend ou dans son époque Bray Wyatt tout seul, là, ses promos interminables, il y a eu certaines feuds, on se souvient, contre Matt Hardy, contre autres, où ça n'en finissait pas de raconter toujours et toujours la même chose. Bon, là, il vient de revenir, ça fait juste 3 ou 4 fois qu'on le voit, mais c'est déjà toujours un peu la même chose, je trouve. Mais par contre, les mecs sont très forts pour le visuel, hein. Son entrée, elle est très impressionnante. La musique, ils ont réussi à écrire une nouvelle partition angoissante, stressante. Tout comme il faut, l'éclairage qu'il a quand il est sur le ring là, avec ce côté éclairé bleu, ce côté éclairé orange, ça, donc ça marche visuellement, Bray Wyatt, ça marche. Mais j'ai envie de te dire presque gagne du temps, Bray Wyatt, parce que bon, 5 minutes pour nous dire tout ça, ça tourne un petit peu en rond. Et puis encore une fois, ce même truc de l'oncle Claudie qui apparaît à l'écran, Bray Wyatt qui le regarde. Hein, là, pour la première fois, on a vu Bray Wyatt réagir visuellement à cette intervention. D'habitude, ça faisait un espèce d'écran noir, là. Bon, il avait l'air de hausser le sourcil, de froncer un petit peu la tête, Bray Wyatt, en se disant qu'est-ce que c'est que ce... Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui vient m'interrompre? Mais je
c'est le fameux tonton gênant.
Voilà, c'est ça, mais je m'attendais à ce que cette fois-ci, on ait une vraie progression où Bray Wyatt aurait repris le micro après et aurait dit un truc à Uncle Howdy, aurait dit arrête de m'interrompre, je ne suis plus celui que t'as connu ou je sais pas. Non, là on est reparti sur le truc classique où on part à la pub ou au spot vidéo et on n'a rien. Donc, Bray Wyatt est un très bon entertainer, je pense. Un catcher, là encore, on a l'impression qu'on est encore loin de le revoir sur le ring. Hein. Je sais pas vers où on va, mais on n'est pas prêt. Donc, simplifiez-nous un petit peu tout ça, épurez-nous tout ça, parce qu'on a, y a des trucs qu'on a compris, quoi. C'est bon, c'est plus la peine de revenir dessus.
Oui. Ce voyage en Arabie Saoudite n'était pas forcément nécessaire.
Oui, quand prendre l'avion pour ça, oui.
ouais, l'impact, voilà, le CO2 de Bray Wyatt, il n'est pas ouf, là, pour la peine. Après, j'ai trouvé que le discours était intéressant, que voilà, on apporte une fois de plus des petites graines intéressantes en parlant de la famille.
Oui, ça c'est nouveau.
Ça c'est nouveau, donc voilà, on fait avancer. Bon, on est toujours, c'est comme, de toute façon ça va être comme ça tout jusqu'à ce que je sais pas quand d'ailleurs. Comme dit, tu as raison, on n'est pas prêt, ça va être comme ça. On va avancer par petites touches et puis. Voilà, on va sûrement laisser des gens sur le bas de la route hein, avec cette histoire, des gens qui étaient forcément excités de son retour et qui vont au bout d'un moment commencer peut-être à se lasser. Et pour l'instant ça va, toi. Moi je veux bien y croire. Moi là où je suis, je l'attends au tournant ce Bray Wyatt, c'est nous proposer autre chose. Enfin, voilà, Bray Wyatt il revient. Il revient avec. Il a plus le temps de prendre du recul. Il veut nous proposer un nouveau personnage. Ça reste dans le même univers, hein, donc ça va pas être, ça va pas révolutionner le bestiaire, l'univers de Bray Wyatt. Mais moi, là où je les attends en tournant, c'est pas juste sur Bray Wyatt, c'est aussi par rapport à tout ce qu'avait dit Triple H. Que Triple H, voilà, attention Bray Wyatt, j'aime beaucoup, mais c'est un mec qu'il faut surveiller, il faut lui mettre. Des garde-fous pour que voilà, ça parte pas dans tous les sens. Moi, j'attends de voir justement, est-ce qu'ils vont réussir à nous faire quelque chose qui arrive à prendre pied vraiment dans notre univers, quoi. Ou est-ce qu'on va se retrouver dans un truc, encore une fois de plus, complètement... ou alors, toi, où il faut vraiment être dans la tête de Bray Wyatt pour suivre cette histoire et qu'on finisse effectivement, comme tu l'as dit, par peut-être tourner en rond. Donc... Bon, je reste tout à fait intrigué et je reste embarqué dans cette histoire de Bray Wyatt. C'est sûr de Aunt Cloudy, je sais pas encore trop quoi y penser. J'ai l'impression qu'avec ce personnage-là, ça va être tout ou rien. Ils peuvent faire le pire comme le meilleur. Toi, en choisissant, est-ce que ça va être quelqu'un de chair et de sang, toi, qui va apparaître un jour, ou est-ce qu'on reste encore dans l'esprit de Bray Wyatt? Pour moi, c'est toutes des petites décisions comme ça qui vont être prises et qui vont à la fin décider de est-ce qu'on a envie de suivre ça, quoi. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est divertissant? Bon, voilà, on continue, on aura droit chaque semaine à ces vignettes. Et je suis comme toi, j'aurais bien aimé que Bray Wyatt prenne le micro. C'est peut-être ce qui va se passer bientôt pour pouvoir faire avancer cette histoire. On arrive au main event. Main event des dollars, le main event du One Lucky Punch. Roman Reigns, la tête de la table accompagnée de Paul Heyman, s'avance au ring. Il affronte Logan Paul qui lui-même s'avance au ring. Alors Logan Paul, quelle entrée! Il était sur une tour gigantesque là avec son smartphone, les feux d'artifice, les drones qui tournent autour. C'était assez incroyable. On a quand même tout un décorum complètement fou. Il entre tout seul ce soir, mais il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, mon bon Raphaël, dans ce main event complètement dingue avec Roman Reigns et Logan Paul qui se retrouvent dans ce match de la démesure entre le plus grand YouTuber de tous les temps et le plus grand catcheur de tous les temps, tout simplement. Roman Reigns, il est confiant, même si il veut pas se faire avoir. Il veut pas se faire avoir, mais Logan Paul va montrer s'il ne l'avait pas déjà fait, qu'il n'est pas venu les mains dans les poches, tout simplement. Ce Logan Paul, il s'est entraîné d'ailleurs avec nul autre que HBK, Shawn Michaels. Et du coup, bah, le tribal chief, au début, voilà, Roman Reigns a le momentum entre les deux. Mais Logan Paul ne veut pas lâcher, ça commence un petit peu à agacer le champion. D'ailleurs, Logan qui finit par mettre au sol Roman Reigns, ça le surprend, la tête de la table, il commence un petit peu à le provoquer en retour, pour lui montrer que c'est lui qui est en contrôle du match. On se balance des grosses clotheslines dans la tronche. Et Logan Paul qui reprend un petit peu le dessus, là, qui veut pas se laisser faire. Il y a eu pas mal de comptes de 2, même des comptes de 1. Paul Heyman commence un petit peu à s'inquiéter. Le YouTuber qui place des gros moves et qui se laisse pas faire. Et il place notamment un énorme coup de poing, le fameux Lucky Punch. Est-ce que ça va suffire? La foule est en délire. Logan Paul a d'ailleurs des fans en Arabie Saoudite. Et il place sa version à lui du Superman Punch. Mais le Tribal Chief ne se laisse pas allonger plus de 3 secondes. Les Ouzo débarquent. Ils se débarrassent des copains de Logan Paul qui étaient là sur les côtés. Roman Reigns se retrouve sur la table des commentateurs. Logan Paul monte sur le turnbuckle. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est juste avant que les Ouzo débarquent, d'ailleurs, ça, je crois, hein, puisqu'il avait récupéré son smartphone. D'ailleurs, la vidéo est en ligne. Là, le gros splash de Logan Paul à travers la table de Roman Reigns en direct avec le smartphone qui a tout filmé. Jack Paul, donc juste après, le frangin de Logan qui débarque pour se débarrasser des Ouzo, mais c'est Solo Sikoa qui débarque à son tour. Les arbitres interviennent pour séparer tout ce beau monde. Logan Paul qui se débarrasse des Ouzo avec un gros dive, mais quand il revient, Roman Reigns le cueille avec un Superman Punch suivi d'un Spear pour la victoire. 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns. Logan Paul, magnifique dans la défaite. Logan Paul, un véritable athlète, puisqu'il nous a proposé comme un sacré move, dont d'ailleurs la fameuse lariat là, de Eggman Page de la AEW que CM Punk avait tenté deux fois de faire, mais qui s'était complètement vautré. Donc c'était... Logan Paul, lui, il y arrive. Logan Paul, c'est un athlète hors du commun, avec du cœur, mais ça n'aura pas suffi ce soir, mon bon Raphaël. Ça n'aura pas suffi.
Non, ça n'aura pas suffi et ce n'est que justice, mais je pense pouvoir dire que là, la WWE n'a pas reculé d'un cran par rapport à tous ces énormes main events de Roman Reigns. On a parlé de SummerSlam avec Brock Lesnar qui soulève le ring, on a eu Clash of the Castle avec cette énorme confrontation avec Drew McIntyre. Là, on s'attendait peut-être pas à quelque chose du même niveau, mais moi, je trouve qu'on est resté dans le même niveau. Et quand il y a Roman Reigns sur un ring, il se passe quelque chose. Là, il y a une espèce d'aura, d'énergie, de tension. Il y a l'air qui devient électrique, la respiration se coupe. On a beau savoir que ça sera peut-être pas ici, pas ce soir, on se laisse prendre par le truc, quoi. Enfin, il y a vraiment une histoire incroyable qui est racontée. Les deux hommes ont réussi à le faire super bien. D'abord, l'un contre l'autre, hein, parce que les interventions sont arrivées assez tard et n'ont pas finalement, à mon sens, ça a joué sur l'issue du match, mais n'ont pas vampirisé le match. On a eu un long moment où ils étaient l'un contre l'autre, seul à seul, à jouer chacun leur partition. Logan Paul a été très surprenant, encore une fois, dans ses capacités physiques. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses avec passion et avec talent et avec brio. Après, c'était assez rigolo, ce bordel, avec les deux mecs au bord du ring là, qu'on connaissait pas, qui se sont pris leur branlée. Les interventions diverses et variées avec Solo Sikoa qui amène une tension en étant là sans pourtant porter un seul move, j'ai trouvé que c'était vachement réussi. Il y a un vrai côté Samoa Joe, je trouve, chez ce garçon, dans le regard, dans la violence. Et puis, mine de rien, quand même, le Lucky Punch n'est rien par rapport à un bon gros spear de Roman Reigns. Je trouve qu'ils ont bien fait de finir quand même sur une fin où Roman Reigns est bien dominant dans sa prise de finition classique, Je m'attendais vraiment à ce qu'on finisse plutôt sur une sorte de guillotine très longue avec un Logan Paul qui passe des secondes et des secondes avant finalement de s'évanouir sans abandonner tout ça. Non, on a fini sur un beau compte de 3 bien propre. Et du coup, c'est très bien. Et je trouve vraiment que ce main event est un très très bon main event. Et quand on finit comme ça, on finit bien un show. Donc bravo tout le monde, chapeau, très belle prestation. Maintenant, Logan Paul, que veux-tu faire, jeune homme? Est-ce que tu veux revenir plus souvent? Là, il y a peut-être un. Il y a peut-être une piste pour vous, là. Il y a peut-être un match avec ton frère contre les Usos qui se dessinerait bien. Et puis sinon, bah, tu trouveras sûrement des mecs qui veulent bosser avec toi après un match comme ça. Hein. Je sais pas, je dis au pif, on pourrait imaginer, vu sa gimmick de méchant, on pourrait imaginer Karrion Kross ou Walter ou je ne sais qui pourrait venir lui, enfin Gunther, pardon, qui pourrait venir lui chercher des noises. Donc la suite de ta carrière, écris-la, garçon, mais c'est bien parti.
Alors, il va falloir d'abord qu'il se repose, hein, le Logan,
Ouais, il
parce
s'est
que,
cassé un peu.
oui, déchirure du ménisque, du ligament collatéral tibial et du ligament croisé antérieur. Il s'est tout fait. Ce qui avait éloigné Seth Rollins en 2015 des rings, je crois. Il avait manqué même WrestleMania. Donc, bon, on va pas forcément le revoir entre les cordes tout de suite,
Non.
Logan Paul. Mais voilà, il a offert son corps à la science du catch, à la science de la lutte professionnelle. Et ouais, c'est un super match. Beaucoup de psychologie, une fois de plus, Roman Reigns incroyable. Là, on voit toute l'évolution du chef tribal tout au long du match qui, au début, bah, est dominant, mais sans être trop arrogant. Toi, il sait qu'en face de l'autre, voilà, il va pas se laisser faire, il va tenter sa chance. Mais quand il se fait allonger la première fois, là, Roman Reigns, ça l'énerve. Toi, il est en colère après lui. Il se dit, c'est pas possible, je vais quand même pas me faire avoir. Et le petit enchaînement, là, je l'avais pas détaillé, mais le petit enchaînement en tentative de, enfin, switch in music,
Oui.
contré, hein, parce que évidemment, entraîné par HBK, Logan Paul a tenté de placer le célèbre coup de pied du Heartbreak Kid. Et puis après, derrière, voilà, tout l'enchaînement, et puis cette buckshot lariat, donc comme je disais, hein, cette prise où il passe par-dessus la corde en faisant une toupie, et puis après, il fait une grosse lariat. L'autre qui est sonné, qui lui fait son fameux One Lucky Punch, c'était super bien foutu, quoi. Vraiment, il y a eu une belle tension, et puis ouais, c'était à la fois psychologique et très athlétique, quoi. Vraiment, ça a duré quoi, 20-25 minutes.
Ouais.
Et comme tu l'as dit, en plus, l'overbooking est arrivé très très tard dans le match, donc il y a vraiment eu le temps pour les deux de nous proposer un super spectacle. Et l'overbooking n'a pas trop, tu as raison de le souligner, n'a pas trop déterminé l'issue du match. Ce qu'on pouvait reprocher peut-être un petit peu trop à Roman Reigns dans quelques-unes de ses dernières prestations où l'intervention systématique de la Bloodline était ce qui lui permettait finalement de remporter, de sécuriser le match. Là, c'était juste un rapport de force entre les deux parce que ça débordait des deux côtés. Et finalement, Roman Reigns a été le plus fort et il a fallu qu'un seul spear hein, pour allonger le YouTuber. D'ailleurs, il lui fait un moment No More YouTuber, j'ai fini les conneries et tout. Enfin, Roman Reigns, c'était vraiment. Ici, c'est le catch et tout. Et l'autre, il était complètement allongé. C'était super. Et c'est comme ça que c'est terminé ce pay-per-view dans une célébration de la Bloodline, là, magnifique, sous les pyros et feux d'artifice et en Roman Reigns imbattable. Qui va continuer sa route là jusque quand? Là, ça, je ne sais pas. Au moins jusqu'à WrestleMania, puisqu'en plus, il y a eu un rock bottom hein, qui était placé. Rock bottom de Roman Reigns sur Logan Paul. Je crois pas que ce soit la première fois qu'il le fait, mais là, on risque d'en voir quelques-uns des rock bottom jusqu'à WrestleMania, qui aura lieu donc à Hollywood.
Ah oui.
Mon beau Rafa, c'est comme ça que se termine ce
Oui.
PLE de l'Arabie Saoudite. C'est l'heure de nous partager ton top. Ton flop et ta note, et juste après, on pourra faire le décompte des pronostics de nos auditeurs. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé de ce
Ah bah j'ai
pay-per-view?
hâte d'être au prono, alors je vais faire vite. Écoute, bah moi je vais mettre le flop à l'opener, hein. Je n'ai pas partagé ton intérêt pour le match et je suis assez déçu du finish que j'ai trouvé pas ouf comme entrée en matière. Donc désolé Bobby Lashley et Brock Lesnar, mais ça rendait bizarre votre histoire. Donc flop là-dessus, top pour le main event. Indiscutablement le meilleur match de la soirée et un très bon match de catch à l'échelle du show et de l'année, je pense. Il y a pas grand-chose à en redire. Une note de 3 et demi sur 5, je vais mettre. parce qu'il y a eu plein de matchs qui ont été sympas. Le juste avant l'opener était très bien. Juste avant l'opener, ça n'existait pas, c'est le kick-off. Juste avant le main event, c'était très bien, avec les deux filles qui ont envoyé du lourd. J'ai globalement bien aimé la plupart des matchs, que ce soit le match, les différents matchs tag team avec les Ouzo, avec le Judgment Day. J'ai bien aimé le clash des géants. C'est souvent comme ça en Arabie Saoudite, mais c'était une sorte de WrestleMania très propre et très clean. On n'a pas eu la folie de peut-être ces derniers mois avec, ben forcément, il n'y a pas eu d'arrivée surprise de quelqu'un, il n'y a pas eu de gros finish inattendu, il y a eu un changement de ceinture, mais qui reste une ceinture tag team assez mineure. Il manque le petit grain qui fait que tu te dis, t'as assisté à un grand soir que tu vas pas oublier. Ça sera pas mal oubliable pour pas mal de matchs, je pense, mais c'était quand même divertissant et plaisant, donc ça mérite le 3,5, je trouve. Mais j'ai hâte d'entendre ton avis, Irem.
Écoute, je te rejoins globalement. Moi, mon flop, je vais par contre le donner au match de Karrion Kross versus Drew McIntyre. Je trouve qu'on n'a pas du tout bien utilisé cette stipulation de la cage et que c'était un petit peu à côté de la plaque. Pour mon top, eh ben écoute, je vais le donner aux femmes ce soir, aux catcheuses qui nous ont offert. J'ai trouvé deux excellents matchs, à la fois dans la division tag team et pour le titre de Bianca Belair. C'était très créatif, bien booké des deux côtés. Et donc, eh ben voilà, s'il faut aller en Arabie Saoudite pour avoir des bons matchs là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je mets mon top aux catcheuses. Pour ce pay-per-view et ma note, eh ben, je vais être juste un petit cran au-dessus de toi, je vais être à 3,75. J'ai beaucoup aimé ce PLE, ce pay-per-view. J'ai trouvé qu'il était voilà, donc, toute la pyro, voilà, ça déborde de partout, c'est indécent. Et en plus, on a eu du beau spectacle, il n'y a pas eu de grosses fausses notes. Et c'était très solide. Peut-être un petit peu propre, peut-être, certainement, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi quand même beaucoup de créativité dans les matchs, entre les cordes, et que du coup, ça lui a donné un petit coup, un petit goût, un petit supplément d'âme, peut-être, je ne sais pas, mais un petit goût particulier à ce pay-per-view qui ne fait pas tache dorénavant sur le calendrier annuel de la WWE. C'est l'heure du grabuge, c'est l'heure des pronos. Et oui, puisque nous avons un nouveau champion roll-up pour ce pay-per-view. Alors, il y a eu du grabuge. Ah, toi, Raphaël, t'étais pas loin. T'étais pas loin. T'as eu 14 points sur 16, mon bon Rafa. Tu t'es planté sur quoi?
Bah, sur le changement de titre tag team féminin, c'est tout.
Ah, oui. Effectivement, vous êtes nombreux là, à avoir pronostiqué, pardon, gagné 5 matchs sur 6. On a donc, si je reprends du début. Sam, c'est pas terrible, hein. Mais on a eu quand même des beaux scores, hein. Du 10, 12, 14 sur 16, c'était finalement un pay-per-view pas très compliqué à pronostiquer, mais avec quelques petites surprises. Ringside aussi, là, n'a que 12 points avec Leti Kyrias. Giscal, la honte, Giscal, qui est dixième là, sur au classement.
Oh là là.
Johanna Jericho et Franck en deuxième position avec 14 points. On a Seb, Nord de la Rivière, Gino, Edge, 69, Dr. Hiatus, Jules, Chetty et Raphaël. Et on a un perfect sur ce pay-per-view qui n'est nul autre que Yerem. Et oui, c'est moi, mon premier perfect de l'année. Et
Ah,
donc,
salut.
votre nouveau champion roll-up. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait depuis l'époque des cahiers du catch que j'avais pas fait un perfect sur un pay-per-view. Et à
Oh là
l'époque,
là.
j'avais pronostiqué, j'avais gagné grâce à une victoire de Darren Young. Donc c'est pour te dire,
Bravo.
je m'en souviens encore. J'avais pronostiqué sa victoire. C'était à l'époque du split des prime time players. Et tout le monde voyait Titus O'Neil. D'ailleurs, Titus O'Neil qui était là ce soir, qui a fait l'ouverture du show, hein, avec sa petite vidéo là pour nous ambiancer. Et du côté du tableau général, pas de changement. Giscal est toujours notre champion ultime, mais il est rejoint par Seb. Ils ont tous les deux le même nombre de points. Donc, pour déloger le champion ultime, il faut évidemment avoir plus de points. Mais Giscal, attention, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde derrière toi, puisque Seb est juste là. Et ouais, est juste
Target
là.
on your back, Giscal. Target on your back.
Et ouais, juste derrière, on a Gino, Soli Perfecten. Chetty, Jules, Johanna, Yereb, Franck, Norbe de la Rivière, Ringside, Jericho et Raphaël, 57 points. Giscal, on a 75. Ça va être dur, mais n'oubliez pas qu'avec les Survivor Series et les Money in the Bank et tout, non, peut-être pas encore Money in the Bank, ce sera avant, les Survivor Series et le Rumble, il va y avoir du point, du gros gros point à gagner. Donc il faut rester là, hein. Il faut rester là. Il faut rester là.
Il faut rester là. Les Survivor Series dont on nous a beaucoup parlé, hein, avec le War Games qui est en perspective, qui reste assez mystérieux. Bon, on va savoir très très vite, je pense, dès l'Euro du lendemain. J'ai appris, en tout cas ce soir, moi je ne le savais pas, que donc il faisait un vrai War Games Elimination Match. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment à 5 contre 5 dans la cage, donc ça change. C'est pas du tout le même... La même dynamique qu'à NXT. J'attends de voir, je suis assez curieux là aussi. Ça m'aurait paru merveilleux d'avoir les 5 membres de la Bloodline, les deux Uso, Solo Sikoa, Sami Zayn et Roman Reigns dans un War Games, mais je me demande si après cette performance saoudienne, ils vont pas repartir dormir quelques mois, mine de rien pour le moment, et je pense que ça va être définitif. On n'a aucun pay-per-view annoncé entre les Survivor Series et le Royal Rumble. Je pense que c'est une première depuis fort longtemps, mon ami Irem. Donc, quand même, il serait bien que la Bloodlines nous fasse plaisir et après partent fêter Noël tranquillement aux îles Samoa s'ils veulent. Mais j'espère qu'on aura un gros show des Survivor Series parce que la dernière étape avant le Rumble, ça fait loin quand même.
Ouais, c'est assez étonnant, effectivement. On va se retrouver sans pay-per-view en l'occurrence entre ces deux-là. Mais bon, peut-être une petite surprise, peut-être un événement spécial. Mais écoute. Bah écoute, les Survivor Series qui vont approcher, là c'est fin novembre, hein, je crois, c'est bientôt, hein. Ça va être
très vite.
Hein. Ouais. Donc effectivement, bah accrochez-vous, restez dans la voiture catch-up pour l'analyse de tous les shows. C'est comme ça qu'on se quitte, mon bon Raphaël, je vous rappelle, catch-up, on analyse justement tous les shows de la WWE, les weekly, les pay-per-view. Aujourd'hui c'était Crown Jewel. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast, mais également sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, votre top, votre flop et votre note. Les réseaux sociaux, c'est Catch-up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'oubliez pas le concours de pronos. Je remettrai en jeu mon nouveau titre de champion roll-up au prochain pay-per-view, donc à Survivor Series War Games. Il va y avoir du grabuge. Raphaël, je te lance un défi. Je te lance un défi ce soir. Je vais défendre mon titre face à toi, en homme à homme, dans ce Survivor Series War Games. Je t'attends, de pied ferme en tout cas, pour venir me défier.
Bah écoute, je prends le challenge. Je vais essayer d'être le meilleur homme debout dans ces War Games. Et peuple de catch-up, voilà, n'hésitez pas aussi à participer. Hein. On accepte toutes les interventions possibles. Nous, on est des fans de l'overbooking. C'est parti.
Allez, je te remercie une fois de plus, Raphaël, pour ta présence et ta fine analyse.
Bah, avec plaisir et merci pour ta description de très haute qualité, comme toujours.
Plaisir partagé. On vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous, bonne semaine pleine de catch, bon mois de novembre et bonne route vers les Survivor Series. On a oublié SmackDown, mais bon, faites vos analyses vous-même si vous le souhaitez en commentaire parce qu'on n'a pas eu le temps de faire SmackDown.